بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. شفاعه الإسلام إن شاء الله. Nous complétons ce soir Sourate An-Nazi'at. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait vu le verset 34. On a vu que la Sourate An-Nazi'at, comme beaucoup de sourates du Coran, peut être découpée en différents chapitres. Il y a un fil conducteur, mais il y a différentes thématiques qui sont enseignées, qui sont dispensées à travers différents paragraphes. Le dernier paragraphe, si on pourrait appeler ça comme ça, la dernière partie de la Sourate An-Nazi'at, c'est du verset 34 jusqu'à la fin de la Sourate, où Allah Azza wa Jal rappelle l'imminence de At-Tammatul Kubra, l'imminence du Qiyamah, de la fin du monde. On avait posé une question aux élèves, parce qu'on a commencé les signes de Qiyamah, Ashratus Sa'a, de le cursus de la madrasa, niveau enfant. Et on avait demandé l'avis des élèves concernant la définition, une définition appropriée de Qiyama. Très souvent, la définition qui revient, c'est la fin du monde. Moi, je reviens, j'essaie de revenir sur cette définition et de rectifier. On a tendance à dire la fin du monde. Mais en fait, quand on parle de fin du monde, je crains que parfois, on confond avec les croyances de ceux qui n'ont pas la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans le cœur. Selon eux, quand on parle de fin du monde, c'est la fin de toute existence. Ce qui veut dire qu'il n'y aura rien après ce monde. Alors que dans notre aqida, lorsqu'on parle de fin du monde, c'est la fin de ce dunya pour passer dans un autre cycle. Le cycle qui lui sera éternel, le cycle du akhira, et qui commence par le barzakh, la vie dans la tombe, qui est plus longue que notre vie, et ensuite le akhira, la résurrection et toutes les autres étapes qu'on connaît. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, dans Faïda Ja'atit Tammatul Kubra, de ce verset, Allah Azza wa Jal annonce l'imminence de Qiyamah, du Qiyamah, de la fin du monde, de la fin de ce monde, et le passage dans le akhira, en réponse aux personnes qui ne cessaient de douter de la probabilité ou alors de la possibilité d'une résurrection. Parce que selon ces polythéistes de la Mecque, de Makkatul Mukarrama, il est illogique, il est inconcevable qu'à partir des ossements, qu'Allah puisse redonner vie. Et ces personnes-là se sont basées uniquement sur Al-Aql, sur la logique. Et Allah, Rabbul Izza, donne des preuves concernant, par exemple, l'unicité d'Allah de la création pour que chaque individu réalise la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et on avait parlé de puissance de la création, et ça, on a tous intégré, quand on dit qu'Allah a tout créé. On a l'habitude d'entendre ces discours où Allah a tout créé, c'est Allah qui a créé les cieux, la terre. Donc ça, on a conçu ça, que la puissance d'Allah, on comprend à travers la beauté, à travers la création divine. Mais la puissance d'Allah, on peut également le contempler à travers la destruction. Parce que les versets qui précèdent, on dit qu'en une fraction de seconde, Allah Azza wa Jal ordonne donc à l'ange Israfil de souffler dans la corne et tout est détruit. Et en une fraction de seconde, tout va renaître. Toute créature, tout être vivant retrouvera son ruh. Combien d'êtres humains il y aura jusqu'au Qiyamah? 150 milliards, Allah seul le sait. S'il y a 150 milliards d'êtres humains depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier homme,
Ça veut dire qu'il y a 150 milliards de ruh, d'âmes. Mais ces 150 milliards, c'est un chiffre que j'avance, de ruh vont retourner dans leur corps qui leur appartenait sans qu'il n'y ait d'erreur, sans qu'il n'y ait une erreur possible. Et ainsi, pour les ruh des al-wuhush, on verra plus tard ce verset que les animaux également seront ressuscités. Le ruh propre à chaque animal retournera de le corps qui leur appartenait. Là aussi, on contemple, on réalise la puissance du Créateur. Subhanallah, à travers toutes les étapes de la vie, depuis la naissance, et ça dans d'autres chapitres, on avait largement commenté la création d'Allah à travers la puissance d'Allah, à travers sa création, la création de l'homme, l'être humain, les phases de l'embryon, la goutte de sperme, le caillot de sang, le morceau de chair, les os qui prennent forme, la peau, la chair, les poils, les cheveux, tout ça, jusqu'à ce que l'âme soit insufflée, jusqu'à ce que de l'état de fœtus, on parle d'être vivant, la création, les cycles de la création de l'être humain, tout ça, ça nous rappelle la puissance d'Allah, mais là, également dans At-Tammatul Kubra, la destruction à une fraction de seconde de tout ce que, de tout ce qui a été créé, les planètes, les cieux, les terres, les systèmes solaires, les océans. Allah seul sait combien de créatures il a sur cette, il a créé, combien de créatures dont nous connaissons l'existence, combien de mondes dont nous contemplons l'existence et combien de alam, de mondes dont nous ignorons totalement l'existence. Ben, tout ça sera détruit en une fraction de seconde et lorsqu'Allah l'ordonnera, tout ça reviendra à la vie pour la résurrection. Donc, At-Tammatul Kubra, on a vu également que c'est une étape, l'au-delà, la résurrection. Mais ce qu'il faut retenir de la résurrection, qu'à ce moment-là, yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Et on avait dit que le terme ma sa'a, c'est, subhanallah, ce sont là les termes du Coran, les termes les plus adaptés. Quand on parle de sa'a, quand on parle de sa'i, on avait donné l'exemple de Sa'i, ben al-Safa wa al-Marwa, on parle de Sa'i, c'est un passage. Est-ce que quand vous faites Safa Marwa, vous vous installez? Est-ce que vous dites, je veux faire Safa Marwa, je veux un hôtel de place, un lit de place avec oreiller tempur, et café, tout ça? Sa'i, tu passes, tu circules, tu enchaînes, tu montes, tu descends. C'est-à-dire, c'est un lieu de passage. Ce dunya, c'est un lieu de passage. Et le jour de Qiyama, l'homme se souviendra de son Sa'i, l'homme se souviendra de son passage sur ce dunya. Bienheureux sera cette personne qui aura profité de ce passage, de ce dunya, pour rechercher le contentement d'Allah Azza wa Jal et pour faire en sorte de rester éloigné de tout ce qui peut provoquer la colère d'Allah Azza wa Jal. Et bien malheureux, celui qui aura consacré l'essentiel de son temps dans le dunya, travailler, gagner plus, et investir, avoir tel poste, telle facilité dans la société. Celui qui court derrière les objectifs dunyaoui, les objectifs de ce dunya, sans pour autant qu'on essaie de dire que travailler, gagner sa subsistance, c'est pas licite. Là, wallah, ça fait partie des devoirs du croyant, d'autant plus quand on a une famille, mais ça ne doit pas être le maqsad, ça ne doit pas être l'objectif, ça ne doit pas devenir l'objectif de ma vie. Et celui qui, durant toute sa vie, cherche à fructifier ses biens, à gagner de l'argent ou à gagner de la notoriété ou l'honneur ou autre chose, cette personne, wallahi l'azim, s'est trompée de chemin. Cette personne s'est trompée d'objectif parce qu'il a complètement oublié le verset « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Qu'Allah nous a créés uniquement pour son ibadah, pour son adoration. Ce sont des versets simple. Tout le monde mémorise ce verset, en arabe ou alors ne serait-ce le sens en français. Tout le monde connaît qu'Allah a créé les djinns et les êtres humains uniquement pour faire son ibad. Tout le monde connaît kullu nafsin dha'iqatul maut. Même les enfants, ils connaissent chaque âme, toute âme goûtera la mort. Mais ces versets-là, subhanallah, si on l'intégrait, si on arrivait à comprendre, à méditer sur le sens et à vivre ces versets, wallahi l'azim, nous ne serions pas dans un tel gouffre de rafla, dans un tel gouffre d'insouciance. Celui qui court derrière le dunya a oublié « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Celui qui pense à son investissement dans 10 jours, dans 1 mois, dans 1 an et ainsi de suite, cette personne a oublié « كُلُّ نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ » Il a oublié que quand on parle de « al-maut », quand on parle de la mort, c'est que quand tu meurs, tu tu es enterré et tu laisses tout ce que tu as pu obtenir, n'importe quelle quantité d'argent que tu as pu faire fructifier dans ce dunya, personne n'est enterré avec ses biens. Si on réalise, on médite sur ces versets, wallahi, ça nous donne le vrai sens, le réel sens de notre vie. Donc, yawma yatadhakkaru al-insanu ma ta'a, mais est-ce que ce tadhakkur, est-ce que le fait que l'homme se remémore, se rappelle de son existence, de ses actions bonnes comme mauvaises, est-ce que ce rappel-là est encore profitable à ce moment? Oui ou non? Non. Lorsque l'homme reçoit, et comment est-ce qu'on se rappelle de notre existence? On l'avait expliqué avant les vacances. Lorsque l'homme reçoit son livret d'action. Lorsque nous recevons le livret d'action, le livret des a'mal, c'est là que l'homme va parcourir sa vie. Depuis 1975, 80, 92, 90, 2015, 2050, jusqu'à ce qu'Allah nous ait donné vie, l'homme va voir minute par minute, l'évolution de ses a'mal saliha, bonnes actions, mais également l'évolution de ses a'mal sayyi'a, de ses péchés. Et c'est là que l'homme va se souvenir de chaque instant, de chaque moment de sa vie, mais ce souvenir-là, ce n'est pas un souvenir qui peut déboucher sur un istighfar. C'est là où on va en venir. Ce souvenir de l'au-delà se rappelle cette prise de conscience en Dieu, mais ce n'est plus une prise de conscience, ne peut plus déboucher sur un tawbatun nasuha, sur un repentir sincère, ni sur des nadam, ni sur des remords qui nous amènent vers un tawbatun nasuha. Vous savez que regretter les péchés, un nadam, regretter les péchés, c'est une condition pour que le tawbah soit accepté par Allah. On avait expliqué ça. Que parmi les conditions pour qu'Allah accepte le tawbah, le repentir d'un serviteur, c'est que la personne regrette ses péchés. Un. Et que la personne fasse l'intention ferme de ne plus recommencer. Mais dans le akhirah, les pécheurs auront des remords. Des gens qui auront, qu'Allah nous protège, qui ont amené avec eux le péché. Et franchement, pour amener avec nous des péchés dans l'au-delà, c'est que vraiment, on est passé à côté de toutes les portes de l'istighfar. Et si on analyse, si un jour on peut essayer d'énumérer, on ne pourra pas le faire, mais si on peut essayer de réfléchir sur les différentes possibilités qu'Allah nous donne pour demander pardon, istighfar, et ça commence par des choses basiques comme les ablutions. Parce que lorsqu'on fait les ablutions, les petits péchés, Inch'Allah, sont enlevés, sont effacés, jusqu'au moment les plus forts, nuit du destin, ou alors Wukuf Arafat, des moments plus rares aussi, mais très intenses, et d'autres occasions qu'Allah nous accorde régulièrement, jeûner 6 Shawwal, et ainsi de suite, Muharram, ces actions qui nous apportent énormément de hasanat, et qui nous permettent d'effacer une année, parfois deux années de péché, ben celui qui malgré tous ces filtres, on pourrait dire des filtres, des moyens de tawbah qu'Allah a mis de ce dunya pour cette umma, uniquement pour cette communauté, et qui malgré ça, la personne se retrouve le jour de Qiyam avec des péchés, c'est que vraiment, cette personne n'a pas profité de la clémence d'Allah. Alors que la clémence d'Allah, elle nous enveloppe du matin au soir, il suffit juste que l'homme tende les mains, que l'homme, que le mu'min fasse un effort, et il obtient la clémence d'Allah Azza wa Jal. Regardez comment est-ce qu'Allah agit avec nous. Allahu Akbar, lorsqu'on analyse la façon dont les anges inscrivent les péchés, et on a vu dans un des versets de Wan-Nazi'at, si je retrouve le verset, je crois que c'était Fassabiqati Sabqa, et Falmudabbirati Amra, dans ce verset, on explique comment est-ce qu'Allah a créé des anges, et chaque ange a un travail, une mission que l'ange accomplit sans faille, sans erreur, sans retard, sans manquement. Parce que les anges sont des créatures parfaites. Ben, quand on analyse les textes prophétiques, les hadiths qui décrivent comment est-ce que les anges inscrivent les actions, et principalement les péchés, on voit comment Allah agit avec le mu'min, le croyant. Et ça, c'est propre aux croyants, aux musulmans. Que lorsqu'un croyant accomplit un péché, Allah demande aux anges de ne pas inscrire immédiatement le péché. Alors que, quand il s'agit d'une bonne action, qui peut me rappeler c'est quoi le mécanisme pour la bonne action? Tu as levé le doigt? Non? C'est quoi le mécanisme pour la bonne action? Man hamma bihasanatin. Celui qui a l'intention de faire une bonne action, Allah ordonne aux anges d'écrire, comme disent les Arabes, alatul, mubasharatan, immédiatement, la bonne action est inscrite. Ajib, karam, la générosité d'Allah Azza wa Jal. Je vous donne un exemple. Je fais l'intention, là, il est 8h43. Je fais l'intention, bon, inshallah, demain je me réveille à 4h45. Je vais faire 6 unités ou 8 unités de prière de la nuit. Je garde mon witr pour la dernière partie de la nuit. Je fais doua. Je fais l'intention. L'intention est là, sincère. Je fais l'intention à 8h43. Les anges ont l'ordre, l'ange a l'ordre d'inscrire le nombre d'unités de prière que j'avais l'intention d'accomplir. Ça, c'est la générosité d'Allah. Mon niyat était de faire 6 rakats de tahajjud. J'ai formulé l'intention, la bonne action, elle était inscrite tout de suite dans le livret de compte. Ajib, la générosité d'Allah Azza wa Jal. Deuxième étape, si le croyant maintenant accomplit la bonne action, Allah ordonne aux anges d'inscrire au minimum 10 fois. Parce que le prophète a dit « Al-hasanatu bi ashri amthaliha » et dans le Coran, normalement, il faut citer les versets, ensuite les hadiths. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui accomplit celui qui accomplit une bonne action, Allah lui accorde 10 fois l'équivalent de cette bonne action. Et 10 fois, ça c'est le tarif minimum. Et Allah peut augmenter en fonction de la sincérité, du contexte. Et Allah seul sait la pureté du cœur de chaque personne. Ça c'est la karam, la générosité d'Allah Azza wa Jal. Où trouverez-vous un patron qui dit « Bon ben demain, viens travailler. » D'accord, demain, je donne un exemple bête. Hein. Voilà, demain, tu vas peindre cette pièce. On se met d'accord, 60 euros. D'accord, 2 heures de travail. Je dis que, d'accord, je vais le faire. Il dit « Ah, tu as l'intention de le faire ?» Vas-y, oui. Il dit « Bah tiens, voilà, déjà 60 euros. » Et si tu fais demain, je te donne fois 10, 600. Et si je te vois appliqué, sincère, consciencieux, ça peut aller jusqu'à 6 000 ou 60 000. Ça, c'est un super plan. Vous trouvez un patron comme ça, restez avec lui. Mais il n'y a personne. Personne. Allah Rabbul Izza est tellement clément, tellement généreux. Tu fais l'intention, Allah te donne la récompense. Immédiatement, c'est écrit. Donc, j'aimerais que chaque personne dans la salle, dans la masjid, là, tout de suite là, faites le niya. Faites l'intention. Jusqu'à quelle heure on peut faire tahajjud, hein? 5, 20, 15? Non, 10, 5h10, barakallah, 5h10, jusqu'à 5h10. Faites l'intention tout de suite, de vous réveiller au moins à 5h. Faire 2 rak'at, pas trop, parce que, attention, il n'y aura plus de place au long du trône d'Allah, hein, astaghfirullah. Les sahaba auront peur de nous, j'ai dit, mais c'est qui tous ces gens qui arrivent là? Ils vont remplir la place sous le nom du trône d'Allah, c'est des muttaqis. On fait juste 2, faites l'intention, mais faites l'intention sincère. La salat, quelle heure est-ce, 6h moins 10? 5h45. En général, on se réveille à 5h30. L'être humain normalement constitué se réveille à 5h30. Il fait yatahammam, barakallah fik, fait ablution, il vient. Mais, alhamdulillah, on fait 30 minutes plus tôt. On se réveille à 5h. Ce soir, il n'y a plus Brésil-France. C'est fini le carnage. Bon, on se réveille un peu plus tôt. On fait le niya, l'intention de faire 2 unités de prière. Et je vous assure que là, à ce moment-là, à 8h46, il y a l'ange. Il est en train d'inscrire tahajjud qiyamul layl. Comment est-ce qu'on est gagnant? Et ça rejoint, j'espère ne pas perdre le fil, ça rejoint un hadith dans lequel, hadith Qudsi, il est possible qu'on le cite une fois, un jour, un coup sur deux, tellement il est important. Allah Rabbul Izzah dit que lorsque le serviteur fait un pas vers lui, Allah fait 2 pas vers lui. Et différentes métaphores, celui qui s'approche d'Allah d'un empan, Allah Rabbul Izzah se rapproche de lui d'une coudée. Celui qui vient vers Allah marchant, Allah Rabbul Izzah vient vers lui harwala, en courant. Ça, c'est pour nous faire comprendre que faites un effort et Allah vous accorde tawfiq, Allah vous accepte. Déjà, Allah vous rétribue beaucoup plus qu'on ne le mérite, nous rétribue beaucoup plus que nous méritons. Et en plus, Allah nous donne la possibilité de faire encore. Allah nous accepte. Il n'y a rien de mieux que d'être accepté par Allah Azza wa Jal. Mais au début, il doit y avoir l'effort. Donc cette personne, regardez, le mu'min comment est, il est rétribué par Allah Azza wa Jal. Je vous donne un exemple tout bête, vraiment décalé. Si quelqu'un a l'intention de faire un régime, ça nous arrive à tous, hein, très souvent le lundi, dit « Bon, lundi, C'est bon là. On met plus de sucre dans le café. On va manger un petit peu moins de pain. Midi, un petit peu moins de riz. Pas comme de Bonne Maurice. Si manger un plein, et les assiettes, un piton de riz. Non, on va diminuer tout ça. On a tous l'intention. Est-ce que le fait de faire l'intention de faire un régime, vous perdez du poids? Ben non. Ben non. Autrement, on serait tous des... Comment on appelle? Je ne connais pas le nom des acteurs, hein, les... ceux qui vendent du café là. Ah, tant pis pour lui. Il a réalisé, on serait tous maigres, 1m80, 80 kg, avec des pectos, des abdos. Non, le nia, je fais l'intention de faire un régime, tu ne deviens pas maigre, tu ne perds pas du poids, il faut faire l'effort. Mais je veux dire que dans n'importe quelle relation humaine, biologique, physiologique, ce que vous voulez, il y a besoin de faire l'action, de passer à l'action. Mais dans la relation spirituelle, Allah Rabbul Izza, sa clémence est telle, comme on a expliqué. Maintenant, dans la façon d'inscrire les péchés, et c'est là qu'on voulait en venir, Allah demande à l'ange qui est responsable de la personne donc qui vient de faire un péché, demande à l'ange de ne pas inscrire immédiatement le péché, mais d'attendre. D'attendre, dans certains hadiths, on parle combien de temps, Allahu a'lam, les interprétations, d'attendre un certain temps avec espoir que ce serviteur va demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Et si le serviteur demande pardon à Allah, le péché n'est pas inscrit. Adjé, ça c'est la générosité de notre Seigneur, d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, si la personne avait l'intention de faire un péché et que la personne se ressaisit et abandonne le péché, décide d'abandonner cette mauvaise action, ben, à la place du péché qu'il aurait pu avoir, Allah Rabbul Izzah demande à l'ange d'inscrire une hasana, une bonne action, parce que la personne avait l'intention de désobéir à Allah. Ensuite, la personne a eu un retour de foi, de taqwa, et il a décidé de retourner vers le droit chemin. Et Allah aime ce cœur qui revient vers lui. Donc voyez là, la générosité d'Allah. Donc, la clémence d'Allah, nous le voyons dans... Enfin, je sais pas, on a perdu le fil, ça fait pas mal de temps. On est en train d'expliquer comment Allah Rabbul Izzah est généreux avec l'être humain, et pour venir au verset que le jour de Qiyama, quand on était en train d'expliquer les conditions pour que le pardon soit accepté par Allah Azza wa Jal, mais ces conditions là et une des conditions an-nadam, les remords, le jour des comptes, l'homme aura des remords, mais ces remords là ne lui apporteront strictement rien. Et deuxièmement, il n'est plus possible de prendre des résolutions. On ne peut plus dire que, je veux dire, Qiyama, quand on a reçu le livret de compte, on ne peut plus dire qu'à partir de maintenant, je vais arrêter tel péché. C'est trop tard, Yahri. Les livrets sont figés, il n'y a plus rien. Il n'y a plus espoir non plus d'aller demander istighfar, d'aller demander pardon à Allah. Maintenant, si Allah veut pardonner, Allah, il pardonne. Mais l'homme ne peut plus agir. Le istighfar, le tawbatul nasuha, ça c'est fini. Et ça se termine quand on entre dans les derniers instants de la vie, dans le gharghara, dans le sakaratul maut. Là, le pardon n'est plus accepté par Allah. Donc, le rappel, l'homme qui se souviendra, ce sera un rappel qui n'aboutira malheureusement sur rien. Même s'il y a remords, même s'il y a détermination d'être quelqu'un de meilleur, il est maintenant trop tard. L'autre étape qu'on avait expliquée, « وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى » Ça, c'est une étape essentielle qu'on n'a pas beaucoup développée, parce qu'on l'a vu, il me semble, dans d'autres versets. On le verra par là. Plus tard, dans le 29e juz, Inch'Allah, l'enfer qui se présentera à la création. Et là, on arrive au point, dernière partie de An-Nazi'at. Les deux catégories de personnes, فَأَمَّا مَنْ تَرَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Les personnes qui seront dirigées dans l'enfer auront comme point commun deux façons d'agir. Premièrement, At-Turyan, la désobéissance aux ordres d'Allah. Son cœur penche vers le péché, il le fait. Il a envie de faire un haram, il le fait. Et deuxièmement, وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Celui qui donnait préférence à la vie de ce monde. On avait expliqué que à chaque fois qu'on accomplit un péché, on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Parce que les péchés qu'on accomplit par erreur, c'est pardonné. Les péchés que quelqu'un te force à faire, ça n'existe quasiment plus à notre époque, ces péchés-là sont pardonnés. Ou les péchés qu'on a accomplis, jahlan, par ignorance, on ne connaissait pas que c'était haram. Pensez, Allah va te punir, Allah va nous punir, ce qu'on ne savait pas. Non, quand on ne connaît pas, Allah ne nous punira pas. Sauf s'il y avait des savants, bien sûr, on ne rentre pas dans les masses là, on avait la possibilité de savoir des choses claires, et bon, la seule chose. Mais quelqu'un ignorait totalement que telle chose est haram, Allah pardonne. Ou quelqu'un l'a fait par erreur, Allah pardonne. Ou quelqu'un t'a forcé à faire le péché, Allah pardonne. Ben, si on enlève ces trois pistes, il nous reste quoi? Ben, il nous reste le péché prémédité. Le péché prémédité. C'est quoi le péché prémédité? C'est l'exemple très simple. Est-ce que j'écoute sa musique ou non? Est-ce que je regarde le haram ou non? Est-ce que je me décide de rater Fajr ou de faire la salat de Fajr? Chaque fois qu'on a, on réfléchit et qu'on a le choix, on a un carrefour de choix entre l'accomplissement d'une bonne action et d'un péché, on doit faire très attention de ne jamais donner préférence aux pulsions, à notre nafs, à tout ce qui nous apporte jouissance immédiate, au hayat ad-dunya. Parce que ça, c'est une qualité intrinsèque, une qualité propre aux gens qui seront orientés vers le jahannam. Parce que, à force de suivre leur nafs, à force de suivre leur pulsion, à force de donner priorité au bien de ce monde, à leur penchant, à leur passion, plutôt qu'à l'ordre d'Allah, ben, ces personnes deviennent les esclaves de leur nafs. Ils finissent par suivre leur passion à chaque fois qu'il y a un choix. C'est pour ça que c'est une caractéristique qui est propre aux personnes qui vont vers le Jahannam quand Allah nous protège. Et le verset du jour, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Voilà donc les qualités de ceux qui seront dirigés vers le Jannah, ceux qui développent la crainte, la khawf, la crainte de ce jour où ils seront devant Allah à rendre des comptes. Et on avait bien insisté là-dessus avant les vacances, qu'il est important qu'à chaque instant, si on peut tous les jours, ou plusieurs fois par jour, on essaie de se rappeler qu'un jour je serai devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal à répondre de mes moindres faits et gestes. Si l'homme arrive à se rappeler de ce moment-là, Inch'Allah, ce sera un aide précieux pour ne pas sombrer dans les waswasa, dans les pièges de Shaitan. Parce que très souvent de ce monde, mes chers frères en islam, on est piégé. On est piégé par Iblis. On est piégé par les fitnas, par tout ce qui nous appelle vers le mal. On est piégé par la banalisation du péché. Le péché est devenu quelque chose de commun. La norme, c'est le péché. Et si on entre dans ce système, on est perdu. Et il est difficile de s'arracher de ce système. On ne demande pas aux croyants de vivre en marge de la société. Non, on fait ce qu'on a à faire. On a une profession, on a un travail. On le fait dans les limites de la charia, bien sûr. Mais on n'entre pas dans ce système de dunya, de passion, de pulsion, d'obéissance aveugle à nos envies. Quand on regarde un jeune qui a 16-17 ans, la norme, c'est qu'à 16-17 ans, excusez-moi, un jeune garçon ou une jeune fille, à 16-17 ans, a déjà connu son première expérience sexuelle. C'est la norme, ce sont les chiffres. Mais non, on doit se décrocher de ces normes. Le péché, le haram, devient une habitude. Ça, c'est ashratu sa'a as-sughra. Petit signe de Qiyama, al-fasad, hein, qu'il y aura turpitude, blâmable, les choses néfastes, mauvaises, immorales, qui vont devenir envahissants à la fin de ce monde, à la fin des temps, l'absence de pudeur, le recul de haya, l'absence de taqwa, la banalisation de l'alcool, des relations haram, l'adultère, l'homosexualité, ce sont des péchés dans notre dîn, sont considérés comme des péchés. Mais quand allez parler de quelqu'un de l'adultère, mais l'adultère c'est un péché, fornication, mais tu ne me dis pas que tu forniques, dis mais déjà personne ne sait plus ce mot c'est quoi forniquer, d'accord? Avoir un amant, une maîtresse et autre chose. Dans certains magazines même, hein, ils banalisent la chose, ils disent que quand un homme a une maîtresse, d'une certaine façon, sa relation conjugale sera renforcée. Je vous assure, je l'ai lu ça. Avoir une maîtresse, des magazines psychologiques et tout, on va dire c'est des magazines psychopathes plutôt, disent que avoir une maîtresse, ça apporte une certaine stabilité dans le couple. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez comment est-ce que le péché est banalisé? Nous, on sait que quand on fait le zina, le iman sort du corps. Et eux, ils viennent nous dire que ça apporte de la stabilité. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Soit disant les psychologues, je ne sais pas, ils ont étudié quel genre d'animal pour avoir ce genre de thèse, disent que quand l'homme va avoir une sexualité épanouie, un peu bestiale même, en dehors du cadre du foyer, du coup, quand il revient à la maison, c'est comme la bête apaisée, il sera plus gentil avec sa femme, et ainsi de suite. Des thèses de malades. Ça, c'est du grand... Même Pharaon, Qarun, il ne pensait pas comme ça. Des esprits tordus. Ça, c'est la norme. Ikhwani fillah. Ashrat al-sa'a, ça nous fait sourire. Mais c'est ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait annoncé. Et ça va à l'encontre de la fitra. De l'inéité. La fitra, c'est ce qui est propre à l'homme. Il y a quelque chose dans l'homme qui s'appelle al-ghira. Al-ghira, c'est quoi? Comment on peut traduire al-ghira? C'est pas la jalousie. Parce que dans la culture entre guillemets française, ou alors plutôt dans le vocabulaire français, jalousie, c'est synonyme de défaut, ni être possessif. Quand on dit un homme est possessif, c'est toujours quelque chose de péjoratif, de mauvais. Al-rira, c'est bien au-delà de ça. On pourrait dire que la rira, on avait trouvé un terme une fois, c'est de l'amour propre. De l'amour propre. C'est que je suis marié à madame, mademoiselle Intel, et je ne tolère pas que quelqu'un d'autre s'approche de ma femme, pose la main sur elle, fasse la bise. Ça, c'est rira. Et ce rira, c'est quelque chose de naturel qui est dans l'instinct humain. Il n'y a pas de frontière religieuse pour ça. À la base, l'homme, il est comme ça. Il n'accepte pas que quelqu'un d'autre pose la main sur sa femme. De nos jours, Allah musta'an, ces choses qui doivent normalement être propres à l'inéité, à la fitra, disparaissent complètement, Allah musta'an. C'est pour ça que j'ai vu ça ou ça à Montreuil, où ça fait très longtemps, et si je me rappelle, c'est que le terme reste, c'était surtout la traduction qui était ridicule, « ad-dayous ». Que parmi les gens qui auront une punition sévère le jour de Qiyam, Ad-Dayous, il avait traduit par un mot. Mais peut-être en français ça marche, mais en créole ça fait un truc très... ça fait un gros mot créole, hein, donc on ne le dira pas. Ad-Dayous, c'est celui qui sait que sa femme ou sa fille accomplit le haram, mais qui ferme les yeux. D'accord? Il y a différentes façons, avec des connotations en cas, répétées, ça, on peut le dire comme ça aussi. L'homme qui accepte. C'est-à-dire que l'homme qui a perdu de sa, on ne parle pas de virilité, mais qui a perdu de sa fitra et qui ferme les yeux sur le fait que sa femme ou sa soeur ou sa fille accomplisse le haram avec un bonhomme et il ne dit rien, il laisse les choses passer. Tout ça, ça nous prouve que à la base, ce sont des qualités propres à l'être humain et plus encore pour le croyant, mais à la fin des temps, ces choses-là vont se perdre. Donc, je disais qu'on est envahi, on est accablé par les péchés, à nous de la seule façon, wallahi, la seule façon de s'en sortir, c'est de penser au akhira régulièrement. L'homme qui pense régulièrement à l'au-delà, il peut s'extraire de ce système de haram. Il peut s'extraire de ce système d'insufflation satanique et prendre du recul et réaliser, comprendre les choses avec le iman, avec la foi. L'homme qui ne pense pas au akhira, un jour qui passe sans qu'il pense à l'au-delà, on peut dire que c'est quelqu'un qui perd de vue l'objectif. Qui perd de vue l'objectif, l'objectif est... Parce que l'aboutissement, c'est quoi? C'est quand on est devant le tribunal d'Allah. C'est là que tout se décide. C'est là qu'Allah, Rabbul Izzat, t'ordonne d'aller et ordonne aux anges de t'accompagner vers la porte du Jannah, Allahumma ja'alna minhum, ou Allah, qu'Allah nous protège, ordonne aux anges de venir et d'agripper l'homme d'arracher l'homme, de le traîner par son visage et de le jeter dans le Jahannam. C'est là que tout se décide. Ça, c'est le rendez-vous final. Et l'homme se doit de se rappeler en permanence de ce moment final. Donc, ça, c'est une qualité. وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ et وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى et qui arrive à dompter son nafs, qui ne suit pas ses instincts. J'ai envie de manger ça, j'achète, je mange. On parle de haram, bien sûr, qui arrive à contrôler son nafs, ses yeux, ce qu'il écoute, ce que son cœur l'inspire. Il arrive à recadrer en fonction des ordres d'Allah, à fixer la frontière du haram et à ne pas le dépasser. Quand le prophète alayhi salatu wassalam annonce que parmi les gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyamah, il y aura le jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, les savants disent que la jeunesse, c'est le moment où on a le plus de pulsions. Il y a des poussées de testostérone, des poussées de... L'autre, c'est comment? Testostérone et l'autre, c'est... Oestrogène. J'allais dire, mais je croyais que c'était un crustacé, je vous assure. Hein. Des poussées d'oestrogène... De oestrogène, et ainsi de suite. Il y a des pulsions, il y a la découverte, hein, de certaines choses, et ainsi de suite. Dans ce moment-là, ce jeûne se contrôle pour Allah. Ça, c'est quelque chose de valeureux. C'est quelque chose d'héroïque. C'est là qu'Allah Rabbul Izza apprécie le jeûne. Parce qu'il a envie de se défouler. Il voit ses amis le samedi soir, ils vont à la villa, ils sont déchaînés. Et lui, il reste là à la case, papa, maman, mais allez, même s'il garde France-Brésil, France-Mayotte, ou peu importe. Et, allez, on va pas dire que non, reste sur le tapis de prière, fais le dhikrullah. Même s'il regarde la télé, il reste chez lui, d'accord. Alhamdulillah, il n'est pas parti vers le haram. Tous ses amis de lycée, ils sont au rendez-vous là-bas, à minuit, Saint-Gilles. Et lui, il n'y va pas. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile à gérer, ça. C'est pas facile, mais ça, c'est le plus grand mujahada. C'est ça, le sacrifice qu'Allah attend de nous. À 17 ans, tous mes copains, tous mes amis, ils ont déjà leur petite copine qui rentre, bisous, fait la bise, et puis the French kiss, et ainsi de suite, et tout ça. Et moi, pareil, comme ça, là, je regarde, et je dis, bah, tu es seul, tu as un petit problème, tu n'as pas de testostérone, peut-être, il y a un petit souci, pas normalement constitué, ou alors, où est ton mec, si tu n'as pas de copine, où est ton mec? D'accord? Parce que si tu as un mec là, oh respect, oh patron! Ça c'est pas. Non, El Padre. El Padre, lui il a un mec. Mon copain a un mec. El Padre, ça c'est l'exemple. Lui il a intégré les choses, lui il a compris. Les autres qui ont des tantines, bon c'est normal, c'est un peu comme le règne animal. Mais lui il va un peu au-delà. Il a un mec. Et donc celui qui est tout seul, il n'est pas dans le système. Vous croyez que c'est simple ça? Wallah, il a envie, mais c'est pas simple. Je vous jure que c'est pas. À notre époque déjà, ça paraissait un peu bizarre, d'accord. Mais de nos jours, ça devient très compliqué. Ben, celui qui est dans la fleur de l'âge arrive à contrôler toutes ses pulsions pour Allah Azza wa Jal. Ben, c'est ce jeune-là, le jour de Qiyama, il se retrouve sous l'ombre du trône d'Allah. Allah maj'alna minhum. Allah maj'al. Allah yatikum hadha al-fadl. Qu'Allah vous accorde, oh, ceux qui sont jeunes, cette faveur le jour de Qiyama, inshallah. Parce que ce jeune n'a pas fait d'action exceptionnelle, mais il a su contrôler son nafs. Et ça, c'est très, 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 très difficile. Qu'Allah nous accepte. Donc, d'où cette qualité. Et quelle sera sa destinée? Et les derniers versets qui complètent surat al-Nazi'at. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Verset 42. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle? Alors, la traduction est un peu ajib. Ayyana mursaha. Quand va-t-elle jeter l'ancre? Donc, quand est-ce que. Quand viendra-t-elle plutôt? Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit comme ça. Yas'alunaka 'anis sa'ati. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand viendra-t-elle? Fima anta min dhikraha. Son terme. Quelle science en as-tu pour le leur dire? Fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. On va déjà voir hein, ces trois versets ensemble. On va essayer d'accélérer pour compléter réellement Nazi'at, tout soit Inch'Allah. Les mouchriquins, lorsqu'ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce que la fin du monde aura lieu? Pensez bien que ce n'était pas par piété qu'ils le demandaient. C'était pour istihza. C'était par moquerie. Parce qu'ils ne croyaient même pas. Donc ils disent au prophète, ben c'est quand alors? La fin du monde, c'est quand? Et Allah Rabbul Izzah révèle de ce verset que, de toute façon, Allah seul le sait. Fima anta min dhikraha. Que le prophète alayhi salatu wasalam lui-même n'avait pas la connaissance de la fin des temps. Vous connaissez le hadith Jibril qu'on développe, on a terminé dans Riyad al-Salihin, à Saint-Clotide, où l'ange Jibril lui-même, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand aura lieu le qiyam? Le prophète dit, mal mas'oul wa anha a'lamu min as-sa'il. Celui qui demande ne connaît pas plus que celui à qui la question est posée. C'est-à-dire, toi, Jibril, meilleur des anges, je ne connais pas. Et moi, Mohammed, meilleur des hommes, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'Allah seul le sait. Yas'aluka an-nas 'ani as-sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Allah seul sait quand aura lieu le qiyama. Hada. Et al-Latifa, parenthèse, les savants expliquent à travers un hadith, un homme avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, mata as-sa'a, quand aura lieu le qiyam? Et ce hadith est magnifique, parce que ça nous fait comprendre que connaître quand aura lieu le qiyam, ce n'est pas l'objectif. Il n'y a pas besoin de savoir quand est-ce que le qiyam aura lieu. Ça ne nous apporte rien de savoir que le qiyam aura lieu en 2095 ou en 3020 ou ainsi de suite. Ça ne nous apporte strictement rien. Le plus important, c'est d'être prêt. D'être prêt pour la mort, et le retour auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc ce sahaba avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, mata as-sa'a, qala lahu, prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Mada a'dadta laha. Qu'est-ce que tu as préparé pour le qiyam? Et au lieu de demander quand le qiyam aura lieu, qu'est-ce que tu as préparé pour cet instant? Réponse de cet homme, c'est une réponse qui sort du cœur. Qala, hubbullah, hubbullahi wa rasulih. Il dit, j'aime plus que tout le monde Allah et son prophète. La personne n'a pas mis en avant les actions. Je prie la nuit et je jeûne le matin. Je donne l'intégralité de mes revenus dans le chemin d'Allah. J'aide le pauvre, l'orphelin, la veuve. Il n'a pas mis en avant ses bonnes œuvres. Il dit que dans mon cœur, j'aime Allah et son prophète plus que tout le monde. Et le prophète alayhi salatu wassalam était entièrement satisfait de cette réponse. Il a dit Al mar'u ma'aman, hadith connu, Al mar'u ma'aman ahabba, que l'homme sera avec la personne qu'il aimait, en ce sens, hein. Chaque personne sera, le jour de Qiyama, avec les gens qu'il aimait. Il y a que celui qui, dans son cœur, avait l'amour pour Allah. L'amour pour Allah, bien sûr. Celui qui aimait, qui prenait comme modèle An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, les compagnons, ridwanullah, alayhim ajma'in, il y a de fortes chances qu'il sera avec eux le jour de Qiyama. Maintenant, si, durant toute ma vie, je prends comme modèle tel artiste, tel footballeur, tel joueur de basket, tel machin, et ainsi de suite, et que je m'habille comme la personne. Comme une fois, quand on est dans le quartier où on travaille, on voit des jeunes, hein, ils font des grandes crêtes. Comme, comment appelle le joueur, là? Il y a un joueur, là. Je ne vise personne, excusez-moi, s'il y a machin, mais il y a un joueur, là, pas Pogba. Un autre, comment? Neymar? Frère, Inch'Allah. Voilà, il y a un autre, bientôt, il y aura comme... gars, il fait un petit truc comme Tintin, là. D'accord, celui qui n'arrive pas à marquer des buts en équipe de France. Qui marque ailleurs, mais pas chez nous. Bref. Frère, Inch'Allah, on ne va pas rentrer dans le nom des joueurs. Mais voilà, on imite. On essaie de s'habiller comme lui. On essaie d'avoir la même coiffe. D'accord. Moi, j'avais des élèves. Un jour, un élève débarque en classe, il a rasé un petit morceau sous sourcil. J'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Une allergie et tout. Elle a dit, non, c'est comme ça, ça. Et ensuite, j'ai compris que Benzema, il avait un petit truc là. Donc, il déclare le Benzema. Bon, il ne quitte pas le football, justement. Il déclare. Et ainsi, il a réalisé, on essaie de faire comme les autres. Alors, on va dire que c'est presque amusant, parce que là, ça reste une imitation extérieure. Mais vous savez, ce qui est dramatique, moi, j'avais expliqué ça il y a plusieurs mois. Quand on est à Makkatul Mukarrama, quand on est à Al-Madina, hein, et qu'on est un peu dans les écarts, on va dans les restaurants, et ainsi de suite, ben, quand on voyait les jeunes, Allah Musta'an, il n'y a que ça. T-shirt Barcelone, t-shirt Real de Madrid, t-shirt Manchester, t-shirt et ainsi de suite. Il n'y a que ça. Yani, le cœur est orienté vers ces stars. Moi, je vous avais dit une fois, à 3h du matin, j'ai fait séhri dans un fast-food. Bon, j'ai un peu honte de dire, j'ai fait un séhri dans un McDonald's, à Riyad, et j'ai vu un jeune rentrer. Je me suis dit que c'est pas vrai, j'allais me mettre debout pour demander un autographe. C'était Puyol. Vous connaissez Puyol? Les cheveux, c'était pareil, je vous assure. Et il était blanc, il était maigre, il avait le nez en pointe et tout. Je dis, c'est lui. Mais la personne, et il avait le t-shirt bien flanqué de peu. Je me dis que Allah Akbar, on est dans Bilad al-Wahi. On est dans la terre de Wahi, la terre de révélation. Comment est-ce que ces jeunes, ils ont pu s'orienter à ce point vers le monde occidental? Wallahi nadam, vraiment huzn, c'est quelque chose d'attristant. Je le dis sous un ton plaisant, mais honnêtement, ça fait mal au cœur. Et ça, c'est quand Hubbud Dunya entre dans les cœurs. Et quand l'homme abandonne la sunna, peu à peu on abandonne telle sunna, jusqu'à ce que le cœur se détache des pratiques prophétiques, et il y a d'autres pratiques qui vont entrer dans le cœur. Allah, c'est un qu'Allah nous protège. Donc, al-mar'u ma'aman ahabba, maintenant ça ne veut pas dire pour autant, je rectifie hein, pour pas qu'il y ait une mauvaise interprétation, ça ne veut pas dire que si quelqu'un met un t-shirt Milan ou Manchester ou Marseille encore ça va et ainsi de suite, ça veut dire qu'il est dans la perdition. Non, bien sûr que non, mais il ne faut pas que ces choses-là entrent dans le cœur. Abadan, ça peut être un loisir, d'accord, mais en aucun cas on doit s'identifier. Personne ne mérite une place dans notre cœur si ce n'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On parle d'être humain en haut, au top. Vous mettez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste après, vous allez mettre qui? Hein? Les parents. Et dans l'ordre, la maman. Après le papa. Après, mettez votre épouse. Après, mettez vos enfants. Après, mettez qui vous voulez. Des sites, hein, bien sûr. Mais pas ces gens-là. Abadan. Ma yastahiq wallah. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah nous protège et qu'Allah protège les jeunes. D'accord? Donc on essaie d'avancer. On a dit qu'on était censé avancer. Donc, al-mar'u ma'aman ahabba, l'homme sera avec les personnes qu'il a aimées dans ce dunya. Hada. Fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Ça aussi, on a expliqué plus ou moins. On va aller un peu vite. Hein. On a essayé d'abréger. On en est à combien de temps là? On a fait 40 minutes déjà? Ah ouais, 43. Voilà, c'est un peu compliqué là, mais on va essayer de continuer Inch'Allah. Donnez-moi encore 5 minutes. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Innama anta mundhiru man yakhshaha 45. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Alors, dans ce verset, ça me peine un petit peu d'aller vite, mais dans ce verset, il y a deux choses. Innama anta mundhiru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est nadhir. C'est celui qui avertit. C'est celui qui avertit l'humanité de la venue de la mort, la venue du qiyama, du retour auprès d'Allah. C'était là la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons orienter notre iman en fonction des choses dont le prophète alayhi salatu wa sallam nous a mis en garde. La mort, le qiyama, le retour vers Allah azza wa jal. Et le deuxième point important dans ce verset, on pourrait dire en annexe, une parenthèse, quand on parle de Qiyama et que le prophète m'a averti, Allah Rabbul Izzah a donné au prophète alayhi salatu wassalam, parenthèse, une science que les autres prophètes n'avaient pas. C'est la science des Ashratus Sa'a, des signes de Qiyama. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne, avait rencontré ses frères Anbiya alayhi salatu wassalam, parmi les thèmes abordés, c'était le Qiyama, aucun prophète n'avait d'éléments de réponse, si ce n'est Isa alayhi salam, qui a donné quelques descriptions, parce que ça fait partie de sa mission à son retour. D'accord? Mais le prophète alayhi salatu wassalam s'est distingué avec une science, une connaissance, de personne n'avait ni Ibrahim, ni Moussa, ni aucun prophète alayhi salatu wassalam. Donc notre prophète nous a enseigné le futur, ce qui va se passer avant la fin des temps, les signes pour que l'homme se rappelle que ça, c'est ce que le prophète m'avait annoncé. Quand je vais voir telle chose, c'est-à-dire que le qiyama est proche, je me dois d'être prêt, hein, et je me dois d'être vigilant, de ne pas sombrer dans ses péchés, dans les choses que le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncées. Et l'autre point qui nous intéresse, c'est le plus important. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. C'est-à-dire que celui qui craint le retour auprès d'Allah, ben c'est lui qui profitera du rappel. Et cette notion de, cette relation plutôt de crainte qui est à la base du rappel profitable, ça on l'a maintes et maintes fois rappelé et on l'a vu à plusieurs reprises dans différents versets, également pour le Coran, que le Coran agit sur les cœurs qui sont réceptifs. Celui qui éprouve la taqwa, la crainte d'Allah, c'est la personne qui va profiter des versets. Alors que celui qui ne pense pas à Allah, celui qui vit dans le péché, celui qui a le cœur noirci de péché, comme cette personne qui ne demande pas pardon, et que donc en finalité l'ange inscrit le péché, et qu'il y a un point noir, deux points noirs, jusqu'à ce que le cœur devienne obscur, ben cette personne-là ne profitera pas des rappels. Et des fois on se pose la question, oui mais Bougla parti Makka, il est parti Hajj, il retourne tord même. Il est parti tord, il retourne tord. Comment ça se fait? Certainement, il a demandé pardon. Tord, ça veut dire tord, c'est créole, hein, d'accord. Il est parti, il était dans le mauvais chemin, il revient dans le mauvais chemin, d'accord. Il avait un parcours pas très correct, il retourne pareil. Comment ça se fait? Ben, en fait, là, vous savez, si le cœur reste enveloppé des péchés et que la personne ne fait pas l'intention de demander pardon pour ses péchés, ben la personne une fois retournée, il recommence ses péchés. Et là les savants disent que la seule chose qui permet à l'homme, parce que c'est pas une fatalité non plus, autrement on dit que avant, à partir du moment où j'ai cumulé des péchés, mon cœur est devenu noir, donc c'est fini, je peux écouter les versets, les prêches, ça ne fera plus d'effet. Non, c'est pas comme ça. C'est que tant que la personne ne décide pas de demander Tawbatul Nasuha, ces points noirs vont rester sur le cœur. Et la solution pour le cœur endurci, pour le cœur qui est rempli de péché, c'est de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Celui qui fait beaucoup d'istighfar avec les conditions, ces points noirs vont être effacés, évacués les uns après les autres, jusqu'à ce que le cœur redevienne pur, à condition qu'on a fait, on a pris des résolutions, qu'on ne recommence plus et que réellement on ne le refait plus. Et là, le rappel sera profitable. Là, les versets du Coran seront profitables. Et là également, le croyant va bénéficier de la lumière qu'il y a dans chaque a'mal ou saliha. Là, les prières, on trouvera enfin la concentration, la dévotion dans la salah. On va enfin pouvoir méditer sur le sens des versets. Et quand on entend tel verset, ça touchera nos cœurs comme c'était le cas des sahaba. Mais ça peut se produire qu'à partir du moment où le cœur est pur, nettoyé de péché et réceptif. D'où la nécessité de demander tawbah régulièrement. Le prophète sallam, minimum 70 fois, istighfar par jour. Mais le istighfar, encore une fois, on le répète, doit être fait sincèrement, en pensant à notre Seigneur et en regardant, en constatant notre position de abid, d'adorateur, d'esclave d'Allah, et la situation où on est, les péchés cumulés, et là on comprend, on réalise notre erreur, et on identifie nos péchés, et on pense vraiment, qu'on demande pardon à Allah par rapport à ses péchés, par rapport aux exactions qu'on a commises. Là le istighfar sera profitable. Hada. Donc, en commentaire, Ibn Uthaymin, rahimahullah, et d'autres savants contemporains ou ceux d'avant, Ibn Kathir, Qurtubi, ils sont tous unanimes sur le fait qu'il n'est pas nécessaire que l'homme connaisse tous les signes de Qiyamah ou sache repérer exactement. Là, en ce moment, il y a, dans le monde musulman, il y a pas mal de choses qui se passent au Yémen. Ce n'est pas des choses simples, ça. En Syrie, ce n'est pas des choses simples qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup de savants, ils n'aiment pas faire le lien entre des événements d'actualité et les signes de Qiyama, parce qu'après on peut aller dans différentes interprétations, et puis si ce n'est pas le cas, on discrédite un peu la religion, on dit « Ah bon, les musulmans avaient annoncé que tout compte fait, c'est parce que leur religion avait dit, ce n'était pas vrai, on ne peut pas dire que ça c'était le signe. » Mais ce qui se passe en Syrie depuis quelques années, nous savons qu'à la fin des temps, Al-Mahdi va combattre quelqu'un, un tyran qui viendra du Cham. Et je ne sais pas, est-ce que dans l'histoire du Cham, il y a déjà eu de telles... Enfin, il y a eu avant, mais récemment, je ne sais pas s'il y a eu de telles... Des personnes qui ont commis autant de crimes. Les hadiths parlent de personnes qui vont tuer, des génocides, qui va ouvrir le ventre des femmes, qui va éventrer des femmes. Donc, tuer la femme, tuer le bébé dans son ventre, ainsi de suite. Ce sont des choses qui ont été commises, Allah Moustan. Et ce qui se passe au Yémen, c'est extrêmement préoccupant. Extrêmement préoccupant. Analysez bien comment ça va se dérouler. Et vraiment, il y a des signes qui sont en train de se passer. On doit faire attention. Donc le but, c'est pas uniquement de savoir, de repérer et tout, mais c'est de se préparer. Il dit que, et là on peut faire le lien directement avec les derniers versets, puis on arrivera à ce commentaire. Ila rabbika fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta mundhiru man yakhsha, on a vu ka'annahum, et là on arrive à la conception du temps et on va déboucher sur une conclusion, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, le jour où ils la verront, le qiyam, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Quand les gens seront ressuscités le jour de Qiyama, quand ils vont essayer de se rappeler combien de temps ils ont passé de ce monde, ce sera comme si qu'ils ont passé une journée ou une nuit dans ce dunya. Parce que la conception du dunya, la conception du temps dans ce monde est en décalage total avec la réalité du temps de l'akhira. Autant ces années que nous vivons sont extrêmement précieuses, autant l'homme qui décide de jouir des plaisirs de ce monde en se disant que plus tard je vais faire, là je n'ai que 20 ans, je suis encore jeune, après, ben c'est l'erreur qu'il est en train de commettre, et le jour de Qiyama, on se rendra compte que le passage de ce monde était très bref, très rapide. Et là ça nous permet d'arriver à ce commentaire qui est très bien, qui est un contemporain, il dit que l'homme se doit de réaliser que le temps, qu'il n'est pas maître de son temps. Elle dit combien de personnes, subhanallah, combien de personnes, J'aime ce que cette personne a dit. La tas'al mata tamut, ne demande pas, n'essaie pas de connaître quand est-ce que tu vas mourir. Wala ayna tamut, ni même où est-ce que tu vas mourir. Lianna hadha al-amr la yahtaj ila su'al. Ça n'a aucun intérêt de savoir ces points-là, quand, où, quel endroit. Aham shay, le plus important c'est dans quelles circonstances. Il dit que quelles circonstances, c'est pas rani ou faqir, c'est pas est-ce que je vais être riche ou pauvre, est-ce que je vais être fort ou faible, jeune ou vieux, tout ça n'a aucune importance. Mais dans quelle situation spirituelle, comment sera ta relation avec Allah au moment où l'ange de la mort vient reprendre ton ruh, ton âme. Et donc sache que le temps ne t'appartient pas. Combien de personnes, kam min insanin kharaja yaqudu sayyaratahu wa raja'a bihi mahmoulan 'ala al-aktaf. Dit combien de personnes le matin quittant leur domicile, ils font salam à leur femme, ils prennent la voiture, la moto, le moyen de transport, ils vont au travail et ils ne retourneront plus chez eux et ils ne retourneront plus auprès de leurs proches. ils vont être portés par des gens pour la prière mortuaire. Combien de personnes quittent leur maison le matin et ne rentrent plus le soir parce que Allah a décidé que ce sera ce jour-là qu'il va mourir, mais la personne n'est pas maître de son temps. Il pense que ce n'est qu'un jour. Demain c'est samedi et je sais que demain c'est samedi, mais toute personne qui sait que demain c'est samedi, il a normalement déjà prévu ce qu'il va faire dimanche. Et il a normalement déjà prévu comment est-ce qu'il va reprendre la semaine avec telle résolution, je vais essayer de faire ça, rattraper ce que je n'ai pas pu faire, ainsi de suite. Ça c'est ce que l'homme pense. Il pense que le temps lui appartient, c'est son droit de vivre. Abadan, ce n'est pas notre droit. Allah Rabbul Izzah peut reprendre le ruh quand il le veut. Donc l'homme se doit d'être vigilant en permanence et être persuadé qu'à n'importe quel moment, l'ange de la mort peut reprendre mon âme. Et c'est là la vérité. Ça, c'est la réalité. On ne meurt pas forcément à 95 ans. Vous avez vu une petite fille qui est morte à 8 ans, il y a 10 jours. C'est la petite cousine de mon épouse. C'est un proche, c'est une petite fille que je connaissais bien. C'était une douleur terrible pour les parents, pour les membres de ma belle famille, ainsi de suite. Ce sont des événements très durs. Et on n'arrive pas à comprendre. Il y a un proche qui disait, oui, mais elle n'avait que 8 ans. Il dit, oui, mais elle n'avait que 8 ans, mais ce al-ajal, l'heure est venue. Ça veut dire que c'est pas que je meurs, il faut dépasser 40 ans pour mourir. Non! On peut mourir très jeune, on peut mourir très vieux, on peut mourir, regardez, un autre exemple décalé, dans le crash de German Airlines, je sais pas, l'avion, la compagnie allemande, il y avait un jeune couple, oui ou non? Je sais pas si c'était en lune de miel ou autre, ils venaient de se marier. C'est pas qu'on meurt, qu'on est triste, on peut mourir quand on est heureux, on a plein d'espoir, on a plein d'idées, on a plein de projets. L'ange de la mort, regarde tout ça. Allah Rabbul Izzah a décrété que c'est à ce moment qu'il meurt, l'ange de la mort reprend l'âme de la personne. Donc l'homme se doit d'être vigilant en permanence. Il y avait un savant, je ne sais pas si c'était Ibn al-Izz al-Hanafi ou As-Samarqandi, il avait dit une parole magnifique. Il dit que quand quelqu'un a 40 ans, il doit se déplacer toujours en voyage avec son tafan. Quel que soit le déplacement, on doit avoir les deux pièces de tissu mortuaire prêtes. Parce que quand on a dépassé 40 ans, on est entré dans une autre phase. Waouh, moi ça me fait peur, j'aurai 36 ans bientôt. Je me dis que dans 4 ans, il faut me mettre un rabat de tissu, acheter mon kafan. Du coup, la prise de tête. D'accord, ça fait angoisser. Dit que c'est une réalité. C'est une réalité. Ça doit être un rappel permanent que l'homme, le croyant, c'est pas l'homme, le croyant se doit de se faire à lui-même. C'est le plus grand dars, c'est le plus grand bayan qu'on se fait soi-même, le rappel de la mort. Et le plus beau le discours le plus touchant, c'est de voir quelqu'un mourir. Quand on a un proche qui est décédé, ça c'est le plus grand rappel. Combien de personnes, je connais des gens qui étaient éloignés de la... Ils restaient musulmans, mais de nom. Et venaient salat al-jum'ah, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, à la mosquée, et Ramadan. Sinon, basse, rien du tout. Aucune relation avec la mosquée, le travail, et rien d'autre. Au décès de leur papa, au décès de leur père, ces gens sont revenus dans le droit chemin, et jusqu'à maintenant, je vois ces gens, ils sont à la mosquée, yaoumiyen, régulièrement. Parce que la personne a été touchée par le rappel. Et bien heureux celui qui peut profiter du rappel de la mort. Et qui ne regarde pas la mort comme une étape de la biologique et qui passe à autre chose, qui retourne vers le péché. Ça, c'est un rafil. Ça, c'est vraiment quelqu'un d'insouciant qui n'arrive pas à comprendre les signes. D'accord? Donc, il dit combien de personnes donc saluent sa femme ou ses parents en quittant le domicile pour aller travailler et qui ne reviendra jamais à la maison. Et on se reconnaît tous les matins. On prend notre moyen de transport, on va travailler. Et on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. C'est pas forcément qu'on est dans un avion, dans les Alpes, qu'on peut mourir, que la probabilité de mourir est plus grande. Là, wallah, tu travailles, même si tu dis, bon, mais il ne prend plus l'auto, mais ça travaille à pied. Tu traverses, il y a un fou qui passe, qui n'a pas regardé, et ainsi de suite, et qui te renverse. La mort, c'est n'importe où. D'accord? On est là, il y a le luxe qui peut tomber. Je vais m'avancer un petit peu quand même. Le luxe peut tomber. Il peut y avoir plein de choses. Donc, l'homme doit être conscient que l'ange de la mort peut venir à n'importe quel moment. Et ça, cet exemple-là, ça nous concerne tous. Également, et là, ça fait un peu plus réfléchir, combien d'époux, le matin, en allant travailler, il dit à sa femme, hayyi'u li ta'am al-ghada ou al-asha, il dit que aujourd'hui j'aimerais manger telle chose, prépare telle chose pour moi. On va dire que de nos jours, il n'y a plus trop. Il y a beaucoup de femmes qui ne cuisinent plus. Ils disent, je déjèle quoi? Quand tes pâtes, tu les veux comment? Avec sauce tomate ou sans sauce tomate? Ah là, franchement, là, vous vivez un cauchemar. Là, il faut. D'accord? Ça, c'est grave. dans les bonnes familles, hein, le monsieur qui va travailler et la femme qui, mashallah, occupe la fonction de Zawja, qui est à la maison et qui gère le foyer et qui gère le tarbiya, l'éducation des enfants, par amour. Elle demande à son mari, tu aimerais manger quoi aujourd'hui pour te faire plaisir? Et là, le mari dit, j'aimerais manger telle chose. La noire dit, aujourd'hui, mon content, moi, j'ai un bon biani poule, là. D'accord? Aujourd'hui, du moins, un biani poule, après telle chose. Il n'y a personne, il aimerait, il dit que, et combien de personnes émettent ce souhait de manger telle chose, mais ne le mangeront jamais. Parce qu'il n'y a pas un grain de riz de ce que madame a préparé qui est de ton rizq. C'est fini. Ton rizq s'arrête au petit déjeuner de ce matin. Ce que tu as mangé, le dernier, la dernière bouchée de nourriture, dernier gorgée de café ou de thé, c'était ton rizq qui s'était terminé. Et quand le rizq est terminé, l'ange de la mort vient tout de suite. L'ange de la mort connaît le moment où on meurt et il connaît la limite du risque, de la subsistance. Quand la subsistance est terminée, l'ange de la mort vient et reprend l'âme. Il dit combien de personnes donc aimaient le souhait de manger telle chose, mais ne le mangeront jamais parce que l'ange de la mort a un rendez-vous avec lui. Et enfin, et là ça donne encore plus de frissons, « Il y a kam min insanin labisa qamisahu » Combien de personnes le matin s'habillent pour aller au travail, pour aller quel que soit l'endroit, et il n'aura jamais l'occasion de retirer lui-même ses vêtements. Ça veut dire quoi? Combien de personnes, que ce soit un, comment vous appelez ça, un kandou, ou un djouba, un kafni, ou une chemise, ou un t-shirt, peu importe, combien de personnes s'habillent et ils n'auront jamais la possibilité d'enlever eux-mêmes ses vêtements? Ce seront d'autres personnes, ce seront les gens qui vont lui donner le bain mortuaire, c'est eux qui vont enlever ses vêtements pour le bain mortuaire. Combien de personnes le matin quittent leur domicile, ils n'entrent pas. Nous nous devons, wallahi, sans devenir parano non plus, mais nous devons d'être vigilants, de nous rappeler. Et moi, quand je pense à ça, il y a une image qui me revient. Il y a un collègue, hein, subhanallah, peut-être une des personnes que j'aimais le plus de ce dunya, Hafez Uthman, qui était notre directeur, mon directeur pendant 8 ans, quand je travaillais donc, au quartier du Moufia. Je me rappelle, il est décédé dans le mois de Ramadan. Un matin, à 8 heures, c'était pendant les vacances. Après, en retournant à la mosquée, on se repose un peu. On a entendu l'ambulance, beaucoup de sirènes. On dit qu'il y a peut-être un incendie quelque part. Quelques instants après, mon père m'appelle, dit que Hafez Uthman, ton directeur, est décédé. Pour moi, c'était impossible. C'était même pas cohérent. Parce que quand vous voyez quelqu'un tous les jours, de lundi au samedi, pendant 3 heures minimum par jour, vous ne pouvez pas penser que la personne disparaît, c'est impossible. Et quand je suis entré dans cette salle, elle est où la salle? Dans la salle de bain mortuaire, j'ai vu dans un sachet transparent les vêtements que je voyais tous les jours sur lui. Parce qu'il mettait les mêmes, il avait des complets identiques. Là, tu te dis que subhanallah, il a mis ça ce matin, fajr. Et ce sont d'autres personnes qui ont enlevé ses vêtements pour lui donner le bain et le kafan et mettre le linceul. Ça, c'est un rappel ajib, ça. Et nous devons de nous rappeler que l'ange de la mort peut venir à tout moment à nous d'être prêts. Parce que le jour de Qiyama, les remords ne seront d'aucune utilité. Et quand on est jeune, on se dit que j'ai encore le temps, il y a encore, à 20 ans on s'amuse, à 40 ans on pensera aux choses sérieuses, il est possible qu'on n'arrive pas à 40 ans. Et il est possible que les années passent tellement vite qu'on reste dans le haram et qu'Allah ne nous donne pas la possibilité de revenir vers lui. À nous donc, inshallah, de faire le niyat sincère, de revenir vers Allah, de méditer sur le temps qui passe et de lever les mains et de demander à Allah ces deux qualités, de penser au qiyama régulièrement au moment où on sera de retour auprès d'Allah Azza wa Jal et de demander à Allah la force de lutter contre les insufflations de shaitan et contre les pulsions pour rester éloigné du haram. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah accepte ce dars sidurus, ces commentaires de tafsir surat al-Nazi'at. Et que, inshallah, les enseignements de cette sourate pénètrent nos cœurs, dépassent le stade des oreilles, rentrent dans nos cœurs, et qu'Allah nous donne la possibilité de les mettre en pratique de nos vies. Allahumma amin. Et vendredi prochain, inshallah. Hein, vendredi prochain, on sera pas là. Hein, il y aura le programme de Sira à Saint-Louis. On avait commencé sur le pèlerinage d'adieu, et on n'avait pas pu compléter avec le décès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça se fera le vendredi 3 avril. La semaine prochaine, on n'y aura pas tafsir. Donc le vendredi d'après, inshallah, on commence Amma yatasa'aloun, avec comme objectif, inshallah, de terminer avant le mois de Ramadan. Qu'Allah nous accepte, donne la possibilité de le faire et qu'Allah pardonne nos erreurs, nos manquements. Nous sommes tous pécheurs, parfois ce sont des péchés visibles, parfois ce sont des péchés intérieurs, cachés. Allah seul le sait, personne ne peut juger son prochain, personne ne peut dire que lui c'est un pécheur, tout comme personne ne peut dire que lui c'est un homme pieux, Allah seul le sait. Mais vraiment qu'Allah ait pitié de nous. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.